Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Nous appliquons l'action publique à orienter notre économie pour l'avance de la nation dans tous les domaines, à mesure que ça croît la richesse de la France.
Jusqu'à 22h.
Pour ce faire, notre cadre, c'est le plan qui détermine les objectifs à atteindre, les étapes et les conditions.
RTL, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'était il y a 50 ans, pendant l'été 1965, un projet ultra secret était lancé par le général de Gaulle, un projet qui allait changer la vie de millions de franciliens. Bonsoir Gilles Antier.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes urbaniste. Vous nous aviez raconté il y a quelques semaines comment le baron Haussmann avait transformé Paris sous le Second Empire. Ce que vous allez nous dévoiler maintenant, est-ce que vous diriez que c'est un projet encore plus ambitieux ?
Ah, encore plus ambitieux sûrement, à la fois parce que ça concernait beaucoup plus de personnes. Là, les travaux d'Haussmann sont sur le territoire de la ville de Paris, alors que là, on est sur un projet qui va concerner tout ce qu'on appelle à l'époque la région parisienne.
Donc ce sont des millions de personnes qui sont concernées.
7-8 millions d'habitants. Ouais.
On est à l'été 65, il y a 50 ans, De Gaulle veut créer le Paris de l'an 2000, et il est particulièrement discret. Pourquoi ? Il avait peur qu'il y ait des fuites, qu'il y ait des freins, des gens qui s'opposent à ce projet ?
C'est ce qu'il ressortait d'une interview que j'ai faite de Paul de Louvrier, dont on parlera peut-être un petit peu.
Paul de Louvrier, c'est celui qui a été le maître d'œuvre de ce projet.
C'était l'homme de confiance de De Gaulle pour faire tout l'aménagement, penser ça, les projets, les villes nouvelles, le RER, la défense, etc. Ouais. etc. Et il disait qu'il y avait peur qu'il y ait des fuites. Il faut dire que fin 64, il y a un conseil des ministres et une présentation d'un grand projet, un schéma directeur d'aménagement de la région parisienne. On voit grand, il y a 8 millions d'habitants, on prévoit qu'il y en aura 15. Comment on va les mettre ? Où on va les mettre ? Et comment tout ça va faire carnaval ? Donc on fait un grand projet, De Gaulle donne son aval, et petit à petit, les affaires tournent, et vers l'été 65, il va falloir commencer à mettre en œuvre tout ça. Et on a peur. On a peur de la spéculation immobilière, la toute-puissance des promoteurs, et ce qui fait que De Gaulle va convoquer les ministres pour signer un arrêté dont on m'a dit qu'il ne connaissait pas la teneur avant d'arriver à Matignon.
C'est-à-dire ?
Eh bien, en fait, il découvre le parapheur. Il y avait une dizaine de ministres.
Ouais.
Il découvre le parapheur, et dans le parapheur, un arrêté très court qui fait deux ou trois articles.
Qui dit quoi ?
Qui dit qu'il va essentiellement avoir pour objet de geler plus de 22 000 hectares autour de Paris.
Ça représente quoi ?
Deux fois Paris. Paris, c'est 10 000 hectares.
C'est énorme.
C'est énorme.
Donc il est surpris, il est déçu, le général de Gaulle, quand il dit ça ?
Non, il n'est pas déçu, mais il dit qu'il faut faire attention. Parce que le problème, c'est que comme l'été 65, on va rendre public ce fameux schéma directeur, qui prévoit qu'il va y avoir 8 villes nouvelles autour de Paris.
Si on le dit trop tôt, ou si ça fuite, les terrains
dès
vont prendre de la valeur
annoncé,
avant.
D'accord. Il va y avoir ça. Alors effectivement, on va geler à travers une procédure qui s'appelle la ZAD.
Ça veut dire
c'est
quoi ?
Pas la zone à défendre, mais ça s'appelle comme ça. C'est la zone d'aménagement différé.
Ça veut dire quoi, geler ?
Eh bien, c'est très simple. Vous possédez, imaginons, un terrain, des terrains très beaux au milieu d'une future ville nouvelle. Mettons qu'au marché, ça vaut 100. On révèle qu'il va y avoir une ville nouvelle. Le lendemain, vous voyez arriver un promoteur qui dit « Je t'en donne 150 ». Donc à ce moment-là, la ZAD, ça permet à l'État de dire « Moi, si c'est plus de 50, je n'accepte pas que vous le vendiez ».
Donc ça veut dire que pour
c'est
les propriétaires…
C'est profondément
dissuasif. Ah oui, mais ça veut dire que les propriétaires y ont perdu ?
Quand vous avez 100, que vous espériez vendre 150 et que l'État vous dit « Ce sera 50 ou rien », qu'est-ce que vous faites ? Ou vous le vendez à prix perdu à l'État, qui est gagnant, ou bien vous attendez, parce qu'en même temps, l'État dit, si vous attendez un peu, ce sera peut-être 70,
sait,
même peut-être 80.
C'était quoi les sites qui étaient... Est-ce qu'ils étaient nommés, tiens, les sites des futures villes nouvelles, décret dont on parle ?
Alors, les noms, on ne l'indique pas, il y a un croquis. Il y a un croquis qui indique un certain nombre de patates, on va dire, installées tout autour de Paris. Il faut dire qu'il y a 8 sites, alors qu'on fera à la fin que 5 villes nouvelles, et qui sont tout autour, il y en a 5 qui existent, vous les connaissez, c'est Marne-la-Vallée, Melun-Sénart, Évry, Saint-Quentin-en-Yvelines et Cergy-Pontoise. Mais il y en avait aussi trois autres, une qui était du côté de Mantes, une qui était plutôt au nord de la région à la limite de l'Oise, et puis une dernière qui était plutôt vers le plateau de Saclay.
Gilles Lantier, c'est aussi ce 21 juillet 1965 qu'est lancé le projet de quartier d'affaires de la Défense.
Pas véritable, oui et non.
Il est accéléré, on va dire.
Oui, on faut dire ça plutôt. La Défense existait, le projet existait, puisque le CNIT datait de 58. Et c'était un peu l'embryon de ça. C'est là qu'on faisait en particulier le salon de l'automobile. Le salon de l'auto, c'était quand même la grande chose. Donc c'était un lieu déjà où on venait et qui a attiré dès, en gros, 1959-60, quelques entreprises, dont Esso, qui est le premier à installer un building là-dedans. Et à ce moment-là, il y a débat. Il y a débat parce que est-ce qu'il faut un quartier d'affaires? Et est-ce que ce quartier d'affaires, ça va être dans Paris? Enfin, ça serait pas exactement dans Paris, mais le projet était de faire quelque chose, grosso modo, Neuilly, jusqu'à entre Neuilly et l'Arc de Triomphe.
Combien de mètres carrés de bureaux sont prévus?
Alors, on fait d'abord, on envisage de faire un grand quartier d'affaires de l'ordre de 2 millions de mètres carrés de bureaux. Et si on peut le faire, c'est qu'on va le faire justement ailleurs que dans Neuilly Arc de Triomphe. On va réserver un quartier et on se dit, et c'est assez juste, la synergie qui existe déjà avec quelques bâtiments, avec le CNIT, c'est quelque chose qui va jouer et donc on va installer là-dedans autour de ça ce grand projet.
Gilles Lantier, quand on voit la Défense aujourd'hui, on dit, oh là, c'est Manhattan, on dirait New York. C'était ça le modèle, New York?
Oh, connaissant, si j'ose dire, avec tout le respect que j'ai pour lui, le général de Gaulle et son anti-américanisme, je doute qu'il ait voulu faire un Manhattan sur Paris.
Et pourtant, non, ça y ressemble.
Ça y ressemble, mais on peut imaginer que ça aurait pu être pire s'il y avait eu simplement une construction plus ou moins désordonnée de tours dans le quartier autour de l'avenue de la Grande Armée. Là, au moins, il y a eu un ensemble, il y a eu un grand projet avec une dalle, des choses qui ont vieilli du point de vue urbanistique, mais qui restent quand même un grand projet, un grand ensemble par rapport à d'autres quartiers d'affaires moins bien réussis en Europe ou dans le monde.
De Gaulle lance donc en 1965, il y a 50 ans, ce projet de ville nouvelle. 8 au départ, il y en aura 5 de créés. Mais au fait, comment on invente une ville? Réponse dans un instant.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité ce soir de découvrir le Grand Paris créé par De Gaulle il y a tout juste 50 ans, en 1965. C'est l'urbaniste Gilles Lantier qui nous raconte cette histoire passionnante. Alors juste avant la signature très discrète du décret qui lançait les projets de la Défense, de 8 villes nouvelles du RER, il y avait déjà eu une première révolution, c'était en juillet 1964, de nouveaux départements étaient créés.
Oui, tout à fait. Il y avait 3 départements dans ce qu'on appelait la région parisienne. C'était donc le département de la Seine, plus grand, qui est autour de Paris, la Seine-et-Oise à l'ouest et la Seine-et-Marne à l'est.
Alors j'imagine que les délimitations de ces différents départements ont dû faire l'objet de tractations. Ça n'a pas dû être si simple que ça.
La tractation, sans doute. Du découpage électoral, certainement.
C'est-à-dire, il y avait quoi comme objectif politique derrière?
On la connaît, c'était la ceinture rouge, comme on l'appelait. Et pire que ça, en 1960, le Parti communiste, qui est quand même une très grande force politique à l'époque, est sur le point d'emporter la majorité des sièges au Conseil général de la Seine. Vous imaginez, De Gaulle entouré par une assemblée à majorité communiste au niveau du Conseil de la Seine. Donc il n'était pas question de faire ça. Donc on découpe avec les 3 départements et suprême astuce, on va dire, mais tout ça est lié à l'aménagement qu'on va en faire. Et l'aménagement qu'on va en faire, tout simplement, dans un nouveau département, on va installer la préfecture dans une ville nouvelle. Cergy-Pontoise va accueillir la préfecture du nouveau Val d'Oise, Évry va accueillir la préfecture du nouveau département de l'Essonne. Et d'autres sont confortés, comme Melun-Sénart, qui est à côté de Melun, préfecture du département de Seine-et-Marne, qui ne va pas être beaucoup touché par rapport aux autres.
Pour aller vite, vous avez cité son nom tout à l'heure, le président de Gaulle nomme un chef de projet, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle Paul Delouvrier. Vous l'avez rencontré, il vous a raconté un peu les détails, les coulisses, les tractations derrière ce grand projet. Il en référait directement à De Gaulle, il passait le moins possible par les administrations.
Tout à fait, tout à fait. Quand je l'ai interviewé en 95, il expliquait très bien que de toute façon, c'était une possibilité Il pouvait faire quelque chose s'il avait les pleins pouvoirs et s'il ne rendait compte qu'au général, qui avait toute sa confiance. Mmh. Parce que, de toute façon, il a été l'envoyé de Gaulle en Algérie entre 58 et 60, période quelque peu mouvementée à cette époque-là. Il en revient, il s'en sort bien. Et donc, au moment où il est rentré, de Gaulle lui dit « Bah, maintenant, de l'ouvrier, je vais vous confier quelque chose, un autre chantier, parce que ça ne fonctionne pas en région parisienne. Il faut faire quelque chose pour ça. » Citons, paraît-il, ce qu'il a dit. La banlieue, c'est le bordel. Passons. Mais il dit, aménageons tout ça. Et il a un grand projet d'aménagement du territoire sur la France et un projet d'aménagement du territoire sur la région parisienne.
Il y avait des bidonvilles aussi dans certaines de ces banlieues.
Il y avait des bidonvilles dont certains étaient très grands. Hein. Le bidonville de Nanterre, c'était de l'ordre de 15 000 personnes. C'était essentiellement les Algériens qui étaient là. Mais un qu'on connaît... Alors, bidonville de Nanterre, on en a souvent parlé, Nanterre-la-Folie, etc. Champigny, c'était presque exclusivement des Portugais, 15 000 habitants, là aussi.
Finalement, Gilles Antier, ce seront 5 villes nouvelles qui vont être créées. Marne-la-Vallée, Évry, Cergy, Saint-Quentin-en-Yvelines et Melun-Sénart. Ce sont des laboratoires pour les architectes, j'imagine, qui rêvent tous d'inventer une ville nouvelle. C'est le Graal.
Oui, et ça a été vraiment une volonté. Ça a été une volonté de l'époque de pouvoir faire quelque chose et de donner dans un cadre qui se tenait, puisque chacune de ces villes nouvelles avait un schéma directeur, était tenue, pilotée, gérée par un établissement public d'aménagement. Mais là-dedans, les architectes avaient un peu, on va dire, un peu carte blanche. Alors, si vous allez vous promener à Marne-la-Vallée, bah, vous tombez sur les camemberts de Nouniez. Si vous allez à l'entrée de Marne-la-Vallée, il y a le Palacio de Beaufil qui a beaucoup travaillé aussi à Saint-Quentin, le Grand Axe de Cergy. Bon, il y a des choses qui sont... Et c'était dans l'idée, parce que c'est une rupture. Ce qu'on veut surtout pas, c'est refaire des grands ensembles.
Mais ils se sont plantés, ces architectes qui rêvaient de la cité idéale?
Est-ce qu'on a avec voulu faire une cité idéale avec les villes nouvelles? C'est pas sûr. On voulait en tout cas pas faire des cités dortoirs. On voulait que des entreprises viennent là et ça a marché. On voulait que des gens viennent là et puissent y travailler. Pour partie, ça s'est réalisé. Et s'ils n'y travaillaient pas dans la ville où ils habitaient, qu'ils puissent aller sans difficulté là où il y avait de l'emploi, d'où la structuration avec un drôle de machin qu'on va appeler un réseau express régional.
Ah, le RER dont on parlera tout à l'heure. Il y a donc ces villes nouvelles créées en région parisienne. Est-ce qu'il y en a eu ailleurs en France?
Oui, il y en a eu ailleurs. Il y en a eu 4. Il y en a une qui est bizarre, marrante après tout. C'est dans la campagne derrière Rouen, ça s'appelle le Vaudreuil. Il y en a une dans l'arrière-pays de Marseille.
Pourquoi elle est bizarre?
Bah, parce que si vous voulez, autant on comprend de faire une ville nouvelle autour de Paris pour accueillir la déconcentration, l'expansion de la région parisienne, qu'on voit à 15 millions d'habitants. Rouen, bon, c'était pas un pôle quand même qui était promis à un développement exponentiel. Alors, il y a eu un truc du côté de Marseille, à Rive-de-Ber, puis il y en a deux qui sont assez similaires au rôle des villes nouvelle francilienne, c'est l'île d'Abeau à côté de Lyon et Villeneuve-d'Ascq à côté de Lille.
D'accord, selon le même principe, il fallait anticiper la démographie, l'augmentation de la population.
Établissement public d'aménagement, voilà.
Alors ces projets évidemment de villes nouvelles ont boosté le secteur du bâtiment en France?
Oui, absolument. Les bâtiments, les architectes, les grandes infrastructures. Ça a été un laboratoire aussi pour beaucoup de choses en termes d'ingénierie, parce qu'il y a eu pas mal d'innovations dans les transports en commun à l'occasion de cet immense projet du RER.
L'objectif de Gaulle, c'était de loger combien de personnes dans ces villes nouvelles autour de Paris?
L'objectif est très ambitieux parce que à l'époque, il y a 8 millions d'habitants en arrondissement et qu'on en prévoit la bagatelle de 15 millions en l'an 2000. Dans la réalité, il y en aura entre 11 et 12. Mais on veut voir grand, et donc on fait 8 villes nouvelles qui chacune auront 500 000 d'habitants.
C'est donc une révolution urbaine que lance de Gaulle, vous l'avez compris, il y a 50 ans. Il crée des villes, mais aussi le RER, réseau qui transporte aujourd'hui plus d'1 milliard de personnes par an avec le Transilien. C'est ce qu'on vous raconte tout à l'heure, juste après les infos.
Vous écoutez RTL.
La France a maintenant arrêté les voies et moyens de sa propre transformation. Nous savons bien qu'il nous reste beaucoup d'étapes à parcourir parce que le progrès n'a pas de limite.
La curiosité est un vilain défaut.
Chez nous, la révolution s'accomplit régulièrement, jour après jour, parce qu'elle est admise dans les esprits et qu'elle figure dans la loi.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention.
Ah bon, on était très attentifs pour écouter le général de Gaulle. Évidemment, l'été 65, le président de la République de Gaulle convoque ses ministres à l'Élysée pour signer un décret, vous l'avez entendu tout à l'heure, préparé dans le plus grand secret. Il vient de lancer son Grand Paris, projet qui va permettre la création de 5 villes nouvelles qui accueillent aujourd'hui près d'un million d'habitants, c'est ça, Gilles Antier, à peu
oui,
près.
Oui, l'ordre de 900 000.
Voilà. Gilles Antier, c'est notre invité, il est urbaniste, il nous raconte comment s'est créé ce Grand Paris. Alors, évidemment, pour transporter tous ces gens, il faut aussi un réseau ferroviaire. C'est à cette époque qu'on crée le RER. C'est aussi lors de ce rendez-vous à Matignon avec une dizaine de ministres au cœur de l'été 65 qu'on décide de créer le RER.
Pas tout à fait. Disons que c'était le schéma directeur qui prévoyait à la fois les 8, puis ensuite 5 seulement villes nouvelles, oui. Qui prévoyait de structurer tout ça avec à la fois un énorme réseau d'autoroutes. Imaginez-vous, il y avait 12 autoroutes qui convergeaient vers le périphérique parisien. Et un énorme réseau de métro régional pour lequel il y a un technocrate qui invente un mot technocratique, qui fait son boulot, et il va appeler ça le réseau express régional.
Et on trouvera jamais mieux.
RER. Parce qu'en aménagement, ouais. On fait plein d'acronymes. Ouais. Et finalement, RER, ça marche, ça passe et ça reste.
Alors c'est avec drôle, le Transilien plus le RER, ça fait combien de personnes qui sont transportées chaque jour
dans les statistiques du STIF, 1 milliard 200 000 personnes.
Par an.
Ah oui,
c'est quand même du monde. Et l'objectif de ce RER, c'est en fait de relier, c'est ça, chacune de ces villes nouvelles.
C'est de relier les villes nouvelles, c'est de créer aussi des passages, parce que avant ça, vous avez des trains de banlieue qui arrivent dans les gares et qui butent, faut l'espérer, dans les gares. Alors que là, il va traverser. Les lignes vont passer d'ouest en est, de Cergy-Pontoise à Marne-la-Vallée. Elles vont passer du nord au sud, entre la vallée de Chevreuse et le futur aéroport de Roissy. Pour ça, on crée et on creuse dans Paris deux stations d'interconnexion, une qui sera Châtelet-Les Halles et l'autre qui sera Saint-Michel.
Ouais. Tout ce qui fait notre quotidien quand on habite en région parisienne, évidemment, et on a l'impression que c'est là depuis toujours, en fait c'est relativement récent. Ça veut dire que la région parisienne a été en travaux pendant, je ne sais pas, des années, des dizaines d'années. Ça a pris longtemps.
L'essentiel des travaux pour le RER, il faut bien voir que le RER, oui, il y a des gros travaux dans Paris. Mmh. Pour le reste, c'est quand même effectivement des constructions de lignes nouvelles dans les villes du même nom. Et en fait, pour le reste, on a intégré dans un même réseau un chemin de fer qui existait déjà. Regardez par exemple ce qu'on appelait la ligne de Sceaux qui arrivait à Port-Royal. C'est devenu un morceau de la ligne RER B. Mmh. Donc on a intégré, on a mis le même matériel pour fonctionner sur tout ça. Et puis voilà. Pour le reste, les villes nouvelles, considérez que ça a été des travaux qui ont commencé à partir du tout début des années 70.
Donc de Gaulle, en fait, puisqu'il quitte le pouvoir en avril 69, il ne voit pas ces villes nouvelles grandir et se construire. Son successeur, Pompidou, qu'est-ce qu'il décide ?
Le projet va continuer, oui. Mais la question pour Pompidou, elle n'est certainement pas une priorité au transport en commun, mais le fait que, dit-il, Paris doit s'adapter à la voiture.
C'est le tout voiture.
C'est le tout voiture. Et il y a un autre document qu'on ne connaît pas beaucoup, qui est le plan voiture pour Paris et qui prévoit entre autres de transformer le canal Saint-Martin en une 2x2 voies qui sera reliée entre l'échangeur, porte de la Villette et qui descend en trombe jusqu'au port de la Bastille où il sera bout à l'actuelle voie express rive droite.
D'accord, ça c'est un projet qui nous semble complètement dingue aujourd'hui. Les voies sur berge là qui traversent Paris,
alors, les voies
ça existait
berge,
déjà ou c'est créé
non,
à cette époque ?
Non, la voie express, il y avait la voie express rive droite en travaux et il y avait un projet de voie express rive gauche qui déclenchait des manifestations tout le temps. Il y avait à l'époque un dessin célèbre qui montrait la cathédrale Notre-Dame avec un flux de voitures qui rentrait et un flux de voitures qui sortait. Et il y avait marqué à côté, il est interdit de klaxonner pendant les offices.
Et c'est
alors donc il y a eu ce projet là, oui. Et puis, il y avait la fameuse radiale vers Saint-Gétorix. Tiens, encore une anecdote. Pourquoi
la radiale vers Saint-Gétorix ?
Oui, ça venait de la porte de Vanves à un endroit qui s'appelle Place de Catalogne. Pourquoi la Place de Catalogne était ronde ? Tic-tac.
Parce que ça devait être un grand rond-point.
C'était un diffuseur.
Un
diffuseur qui envoyait un vomitoire à Bagnoles en direction de Montparnasse et là d'une rocade à nouveau autoroutière qui reliait tout ça.
Très ambitieux, Georges Pompidou, mais c'était pas très raisonnable finalement. Pourquoi ça n'a pas vu le jour ?
On peut le dire. Le mot est faible.
Qu'est-ce qui a mis un terme à ces projets ?
Pompidou est mort.
Et le choc pétrolier aussi en 73, on peut dire
choc pétrolier,
on est un peu sorti du tout.
Quand vous avez en une nuit le prix de l'essence qui est multiplié par deux ou trois, ça renverse effectivement les priorités. Et puis, c'est très typique, l'un des premiers gestes de Giscard, élu président, va être non seulement de mettre la majorité à 18 ans, mais d'interdire les tours dans Paris et d'abandonner le fameux projet de voie express rive gauche.
D'accord, donc c'est intéressant de voir que chaque président finalement a voulu imprimer sa marque. On parle beaucoup de la région parisienne, mais ça a eu aussi des conséquences, ces projets. Par exemple à Lyon, le tunnel sous Fourvière, il est construit sous l'impulsion de Pompidou aussi, c'est ça ?
Il est le tunnel sous Fourvière est ouvert en 1971, ce qui signifie quand même que les travaux ont bien duré quand même 4 ou 5 ans auparavant. Mais on est effectivement dans les mêmes moments. On est dans le moment où un bon maire, c'est un maire bâtisseur, c'est un maire qui fait là des pénétrantes autoroutières dans la ville. Lyon est extrêmement caractéristique de ça.
Donc on l'a vu, le choc pétrolier, la mort de Georges Pompidou vont mettre fin à ces projets. J'ai envie qu'on fasse un saut dans le temps. Je disais, les présidents impriment leur marque. Aujourd'hui, on parle beaucoup du Grand Paris. Alors c'est quoi ? Qu'est-ce que ça va devenir ? C'est encore plus ambitieux que tout ce qu'on vient de décrire ?
C'est une nouvelle ambition. C'était en tout cas bien dans le projet de Nicolas Sarkozy quand il lance aux alentours de 2006-2007 ce grand projet-là. C'est aujourd'hui d'abord un grand métro. Un grand métro qui aura, puisque c'est de l'ordre de 200 km, avec presque 70 gares nouvelles autour desquelles on ambitionne de créer des morceaux de ville, si vous voulez, dans un grand périmètre autour de ces gares.
Ça veut dire
l'état du projet aujourd'hui.
Ouais. Ça veut dire que 90% des habitants de la région parisienne vivront à proximité d'une gare, c'est ça ? C'est l'ambition du projet.
Pas un tel potentiel, mais par contre, l'idée est qu'effectivement, il y ait beaucoup de gens qui habitent et travaillent dans un périmètre proche de ces fameuses gares. Mais l'idée, elle est aussi de faire du logement, parce que l'ambition est d'arriver à une production de l'ordre de 70 ou 75 millions de logements par an, contre de l'ordre de 40 000 actuellement.
Merci beaucoup Gilles Lantier, c'était passionnant. Je rappelle que vous publiez aux éditions du Pommier « Comment vivrons-nous en ville demain ?»
Vous écoutez RTL.